Bonjour à toutes et à tous. Dernière semaine avant de laisser place à la grille d'été. Dès lundi prochain, vous entendrez chaque jour à 14h des entretiens hors champ menés par Laure Adler, des entretiens inédits. Et puis vous pourrez réécouter une sélection de documentaires Les Pieds sur Terre proposée par Sonia Kronlund. Mais nous sommes encore ensemble pour 4 jours et notre chantier thématique de la semaine, Anne vient de le dire, c'est l'été. Hier, on explorait l'été comme territoire de fiction et comme temps privilégié de lecture aujourd'hui au travail. Les sénateurs examinent et amendent la loi travail jusqu'à 18h ce soir, tandis que plusieurs manifestations ont toujours lieu en France. Il y a quelques semaines, au début de la mobilisation contre ce texte et comme gage donné aux organisations lycéennes et étudiantes, la généralisation du dispositif garantie jeune avait été brandie par le Premier ministre comme une des mesures phares du quinquennat. Cette garantie jeune, dit le gouvernement, propose aux 16-25 ans, en situation de grande vulnérabilité, un parcours intensif de formation et d'accès à l'emploi, accompagné d'un revenu s'élevant, selon l'article de Simon Barbaré sur publicsénat.fr, à 461 € par mois. Et le débat a repris de vieilles polarités entre assistance d'un côté et soutien de l'autre. Et plutôt que de questionner cet état si partagé de grande vulnérabilité des jeunes sur le marché du travail, on a rappelé ici et là qu'il ne faudrait pas l'habituer, cette jeunesse, à gagner de l'argent sans rien faire. 2016, jeunesse paresseuse, jeunesse assistée, on n'a pas fait beaucoup de chemin, il est 14h passé de 2 minutes. Bienvenue dans les nouvelles vagues. En fin d'émission, cette semaine, nous écouterons des auditeurs, des visiteurs, des passants qui, pendant le week-end Imagine, coproduit par le Centre Pompidou à Paris et France Culture, début juin, nous avaient rejoints sur la grande marelle radio de la Piazza pour enregistrer des récits de moments importants. Aujourd'hui, c'est un récit d'ascension. Une femme que le vertige sidérait enfant conjure régulièrement le sort en se postant à plusieurs mètres du sol sur des grues. La montée comme la descente sont des expériences corporelles forte. On l'écoute vers 14h50. Deuxième moment de ce chantier des nouvelles vagues consacré à l'été. Aujourd'hui, il est la saison du travail. Alors du petit travail ou pas, du travail tout court, sur période courte, rémunération rarement faramineuse, mais rémunération quand même. Pour des jeunes pris par les études le reste de l'année, le job d'été est à la fois une possibilité de réunir quelques deniers et à la fois une expérience du monde du travail. Amadou Boy, vous êtes conseiller référent emploi au CIDJ à Paris. On va s'empresser tout à l'heure de dire ce que c'est. Bonjour à vous et bienvenue.
Merci, bonjour.
Chloé, vous avez répondu à notre appel sur Twitter. On demandait à nos auditeurs de venir raconter une expérience de job d'été qui les avait marqués. La vôtre remonte à quelques années. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Marouane, toi tu es encore lycéen. Tu nous rejoins de temps en temps depuis qu'on s'est rencontrés pour faire de la radio dans ton lycée Sugère à Saint-Denis. Bonjour à toi et bienvenue.
Bonjour.
Et puis on aura tout à l'heure en ligne Ariane pour un autre récit d'expérience de job d'été. Alors j'ai dit CIDJ, c'est des lettres pour dire quoi, Amadou Boy?
Alors, c'est des lettres pour dire Centre d'information documentation jeunesse. Donc, nous sommes une association nous existons depuis 40 ans. L'objectif et la priorité surtout de cette structure est de recevoir les jeunes en un seul lieu, sans rendez-vous. Enfin, vous en trouverez pas beaucoup en Ile-de-France. Donc, en un seul lieu, sans rendez-vous, pour répondre à des questions relatives à l'orientation, les choix d'études, les choix de métier, à l'insertion professionnelle, accompagner les jeunes, que ce soit pour un job d'été ou pour un emploi qualifié. On travaille aussi sur un troisième axe qui est la mobilité internationale. Comme vous le savez, c'est un axe fort sur les jeunes, effectivement, de tenter des projets de mobilité pour développer des compétences linguistiques ou juste avoir une dimension internationale. Et puis, un quatrième axe, pour vous dire à quel point on est généraliste et que on est prêt à répondre à tous les types de demandes que formulent les jeunes, les questions liées à la vie quotidienne, ça peut être du droit, du logement, ça peut être rencontrer le défenseur des droits parce qu'on est en litige avec une tierce personne. Donc voilà, grosso modo pour résumer un peu l'offre des services du CIDJ en direction des jeunes.
Donc c'est une structure qui en effet qui est très ouverte et qui se en effet caractérise par le fait qu'on peut venir et que la porte est ouverte dans cet endroit. Ça se situe à Paris, sur les quais, non loin d'ici.
Absolument.
Est-ce qu'il y a une fréquentation accrue au moment de l'été qui précède la période estivale pour justement ces jobs d'été?
Alors à cette période, on va avoir deux types de publics. Hein. On va avoir le public qui est en préparation du bac, qui est en attente d'APB, admission post-bac. Il y aura des mécontents et donc ils viendront au CIDJ pour qu'on puisse les orienter, les conseiller sur des sur d'éventuels plans B. On a aussi un deuxième type de public qui est à la recherche d'un job d'été. Pour avoir une première expérience en entreprise. Les jobs d'été aussi, c'est intéressant de le préciser, ça peut être un service civique. Hein, parce que c'est ouvert aussi aux jeunes de 16 ans qui peuvent aller dans le secteur marchand, occuper une activité au sein d'une association, s'appuyer sur sa pratique des réseaux sociaux pour créer des outils de communication pour une association ou intervenir dans le domaine du sport. Donc cet été, effectivement, à partir de maintenant, on a des jeunes qui viennent effectivement, qui sont à la recherche d'un job.
Et souvent, ils ont des pistes quand ils viennent vous voir, ils vous disent voilà, je vais avoir mon bac ou alors j'ai pas du tout mon bac mais j'ai besoin de travailler cet été. Ils viennent avec des envies, c'est assez affiné ou alors c'est vraiment, ils viennent à la découverte de ce qu'ils peuvent
toujours,
faire.
Pas toujours. Alors c'est ça, c'est intéressant qu'on voit les jeunes 16, 17, 18 ans qui viennent pour leur première recherche de job. Enfin, l'impression qu'ils nous donnent, c'est que c'est, comment dire, c'est commandu, quoi. Ils vont au McDo, ils vont acheter un burger. Enfin, ils sont pas encore au clair que...
au sens où ils ont, selon eux, dans votre impression, droit à un travail.
C'est ça. C'est ça. Ce qui n'est pas faux, parce que bon, le travail a un droit, hein, en théorie, très clairement. Mais on se rend compte que quand même la distance qui les sépare de l'emploi qu'ils recherchent tant bien même, c'est des emplois pas qualifiés, parce qu'on est sur des jobs d'été, qui requièrent tout de même quand même des aptitudes nécessaires. On prend le temps quand même de les conscientiser sur le fait que même si cet emploi-là consiste à soulever des palettes, c'est qui ne requiert pas de compétences intellectuelles énormes, requiert quand même une certaine présentation, une motivation. Alors la motivation, ça a toujours un côté un peu abstrait. Hein, ils nous disent souvent, ça veut dire quoi une motivation? Je suis motivé, c'est parti de chez moi, je suis venu vous voir, je suis motivé, effectivement, la démarche, c'est un signe de motivation. Mais on leur explique aussi que la motivation, il faut qu'elle soit beaucoup plus audible, beaucoup plus visible, parce que vous ne serez pas seul sur le seul emploi qui est à prétendre. Donc vous aurez d'autres jeunes candidats qui sont potentiellement, ça se trouve, aussi motivés que vous, voire plus motivés que vous. Donc l'idée, c'est que, dans le cadre d'un entretien, qu'on essaie un peu de dynamiser leur motivation.
Est-ce que pour vous, c'est aussi une façon, quand vous dites « vous ne serez pas seul sur ce poste », c'est une question qui va par la suite, à 17 ans, 18 ans, 19 ans, puis après leurs études, être une réalité palpable, voire cruelle. Ils ne seront pas seuls à postuler à des emplois. Pour vous, c'est le moment de leur faire sentir ça, que le marché de l'emploi, c'est ça, aujourd'hui, en 2016 ?
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison parce que de toute façon, ils se dirigeront à part de ce job d'été jusqu'à leur emploi qualifié sur des environnements hyper concurrentiels. On le sait très bien aujourd'hui. Hein, le seul diplôme, malheureusement, même si ça augmente nos chances, les chances des jeunes d'accéder à un emploi,
ça garantit
on sait
pas
très bien
poste.
Que bon, aujourd'hui, ça suffit pas. Et il est important pour les jeunes de leur expliquer, de dégager ce qu'on appelle des valeurs ajoutées, quoi, hein, dégager des plus certains, qui leur permet effectivement de se démarquer, hein, de cette. Faut savoir quand il y a un emploi, en général, l'employeur traite une quarantaine de CV. Parmi ces quarantaines de CV, on isole une bonne dizaine, et sur cette dizaine, on appelle 5 au téléphone et on convoque 3 ou 4. Enfin, on est
c'est
à peu près sur ces proportions là. Hein. Donc il faut qu'ils comprennent que depuis l'envoi de son CV jusqu'à ce qu'il soit convié au bureau du recruteur, c'est tout un travail sur les techniques de recherche d'emploi, c'est toute une posture, c'est encore une fois toute une forme de dynamisation des motivations qu'il faut qu'il fasse.
Alors là, quel que soit le niveau scolaire où ils sont rendus, hein, qu'ils soient en filière professionnelle, qu'ils passent leur bac, qu'ils viennent peut-être de passer leur bac, est-ce que vous avez l'impression qu'ils découvrent cette réalité du travail, ou est-ce que vous avez la sensation que par le milieu familial ou par l'école, c'est quelque chose à quoi ils sont un tout petit peu formés ou informés?
Pas tant que ça. Moi, je, par expérience, je souhaiterais...
Ça reste un monde très très loin,
très loin,
ce monde du travail.
Encore avec, avec un fantasme et encore une fois, une distance et une perception qui n'est pas, enfin, qui n'est pas celle du recruteur qui, lui, va donner la décision de qui vient travailler chez lui ou pas. Donc, c'est vrai que cette perception-là, je vais faire quelques exceptions. Peut-être les jeunes qui sont dans des filières professionnelles, qui dans leur parcours d'études ont eu l'opportunité d'effectuer des stages.
De l'apprentissage,
exactement. Ou les jeunes qui ont été amenés à faire de l'alternance, hein, ou à effectuer des stages. Eux, ils connaissent le monde de l'entreprise, ils en mesurent les contraintes, ils ont déjà mesuré dans la recherche de stages que la concurrence y était déjà, hein, que nous-mêmes au CIDJ, nous animons des ateliers sur les stages, ne serait-ce que pour les jeunes de troisième, hein, ils ont 15 ans. Démarcher un employeur pour faire un stage d'une semaine, ça s'invente pas pour un ado de 15 ans. Donc leur expliquer deux, trois choses, travailler leur CV, leur lettre de motivation, leur apprendre à se présenter, avoir l'ébauche. Alors à 15 ans, parler de projet professionnel, c'est un bien grand mot. L'ébauche d'un projet professionnel, pourquoi j'ai choisi cette entreprise-là, Radio France, pour y effectuer mon stage, parce que effectivement demain, j'ai choisi de faire un bac dans telle ou telle spécialité. Et après, effectivement, mon parcours m'a mené sur les métiers de technicien son, du journalisme, de l'animation radio. Mmh. Bon, voilà, c'est
Marwan, alors, puisque c'est pas toujours facile de présenter, en effet, de manière très générale, parce qu'à Madouboy, vous recevez au CIDJ des centaines et des centaines et des centaines de jeunes, donc un paysage comme ça, général, ça donne une idée, mais pas des vérités. Toi, tu as l'impression, à 16 ans, tu es en première, tu as passé en terminale, tu viens de passer tes épreuves de bac français, d'avoir quoi comme distance avec le monde du travail ?
J'y connais presque rien, en fait. Faut savoir que le lycée, c'est... Hormis faire un bac professionnel ou faire de l'alternance, c'est vraiment quelque chose de très scolaire. C'est vraiment pas du tout professionnalisant. Du coup, si moi, par exemple, je voudrais faire cet été un job, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, en fait.
Ni à quoi t'attendre, ni quoi vouloir. C'est-à-dire que, peut-être on discutera tout à l'heure de différentes expériences que t'as pu avoir ou souhaiter avoir, mais toi, tu ne saurais même pas à quelle porte toquer.
Non, je ne saurais pas à quelle porte toquer. S'il y a des jobs dans des cafés, dans des magasins un peu plus généralistes, en tant que rangeur de rayon ou encore des trucs assez basiques qui demandent pas forcément des capacités très poussées, je serais complètement perdu.
Comment ça, complètement perdu ?
Ah, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que l'employeur va me demander, quel type d'attitude je dois avoir au travail, comment je dois montrer ma motivation. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose auquel je suis complètement détaché.
Comme si c'était des codes que tu n'avais pas, en fait, d'un monde.
Je ne les ai pas. C'est plus que ça, je ne les ai pas, en fait. Je n'ai jamais été formé dans un monde professionnel et c'est peut-être une des lacunes que je trouve à notre système.
Tu vas travailler cet été ?
J'espère, si je trouve un travail.
T'es en train de chercher un travail ?
Actuellement, non. Je suis plus en train de me détendre, plus en train de lire et essayer de renouer les relations que j'ai avec des amis un peu disparus. Mais...
Et alors, t'es comme ça, à horizon de quelques semaines, tu vas te mettre quand à chercher un travail ? C'est super de renouer des relations avec des amis disparus. Ça, c'est essentiel.
Ça l'est. Mais en fait, dès que ma période de travail au niveau bac et post-bac sera finie, dès que j'ai bien en tête ce que je veux, je vais tout de suite me mettre à la recherche d'un travail.
Tu te dures à peu près ?
Non, à peu près 2 semaines. Dans environ 2 semaines, je vais vraiment me mettre en direction de trouver un job d'été.
Petit regard de délai à Madouboy sur le calendrier choisi par Marwan.
Alors, disons que vous vous y prenez pas trop tôt, hein, sur la recherche du job.
C'est tellement gentiment dit.
Faut savoir que, voilà, en termes de calendrier, pour trouver un job d'été, il faut commencer au mois de mars.
Oui.
Hein, ça va, oui, il faut commencer au mois de mars.
Quel que soit le département en France.
Sur le département, alors ça ne veut pas dire qu'après le mois de mars, il n'est pas possible. Nos chances se réduisent, certainement, mais si on s'y prend, parce que les employeurs, ils anticipent. Donc l'idée, c'est de suivre aussi le calendrier des employeurs. C'est-à-dire qu'eux, ils savent qu'il va partir en congé, quelle va être la charge de travail. Donc eux, ils anticipent déjà. Ils savent que dès le mois de mars, quelle est l'armada de jeunes qui va débarquer dans leur entreprise pour occuper un job d'été. Alors, Le CIDJ, d'ailleurs, à ce propos, organise tous les ans, au mois d'avril, un salon de job d'été, un des plus grands de France. Effectivement, cette année, par exemple, il y avait 40 entreprises. Ce sera un plaisir, effectivement, de vous fournir la liste de cette quarantaine d'entreprises que vous pouviez postuler. Je suppose que tous les emplois qu'elles proposaient ne sont pas pourvus. Mais voilà, il faut vraiment démarrer au mois de mars. Maintenant, ceux qui ont démarré au mois de mars, qui vont trouver un job, parfois c'est sur un mois, deux mois. Voilà, ceux qui démarrent au mois de juin, vous avez quand même des chances qui ne sont pas énormes, mais vous avez quand même des chances.
Elles sont considérablement réduites.
Elles sont réduites, hein. Alors, il y a des axes importants, hein. Par exemple, il y a des emplois qui ne démarrent pas dès le mois de mars. Quand je prends, par exemple, tout ce qui est cueillette des fruits et des légumes, bon, hein, travailler au grand air, à la campagne, cueillir des pommes, faire les vendanges, là, les besoins sont énormes en ce moment, hein, par exemple.
Il faudrait faire attention parce que les clients du mois d'août sont plus exigeants que ceux du mois de juillet. Donc il faudrait y prêter attention, s'il vous plaît. Hein? Une petite attention particulière, comme M. Clément, comme Mme Chevance, comme Mme Sinrac. C'est vrai que ça fait longtemps déjà qu'on les a. Il ne faut pas se laisser aller. Hein? On a fait un bon mois de juillet, on a répondu présent. Maintenant, on ne peut plus décevoir. Ça, on n'a pas le droit de se louper. Blue Hotel.
On était parti pour évoquer les jobs d'été et nous voici sur une Lonely Highway près d'un Blue Hotel. C'est grâce à vous, Chloé. Alors, quand on a lancé sur Twitter un appel à nos auditeurs pour venir raconter des expériences de jobs d'été, vous avez répondu en disant « Bon, ben moi, pourquoi pas ?» Alors, il faut vraiment que cette expérience de jobs d'été vous ait marqué. Pourquoi ?
Oh, parce que ça a été ma première immersion dans le monde du travail. C'était en 89, c'était mon premier job d'été. Avant, j'avais fait du fille au père, mais si je voulais partir avec ma copine en Espagne, c'était pas suffisant.
Financièrement,
au père,
tu veux dire.
Oui. Donc, il fallait que je trouve un vrai boulot. Et mon père connaissait le directeur d'un hôtel à Paris-Gare de Lyon, à côté de chez moi en plus. Donc c'était tranquille, j'allais au boulot à pied. Et il lui a demandé si c'était possible de m'embaucher. Et je me suis donc retrouvée gouvernante. Gouvernante, qu'est-ce que c'est ?
À quel âge déjà ?
Donc 20 ans. Je n'avais jamais travaillé... Non, jamais, à part, comme je le disais tout à l'heure, à part les expériences babysitting et fille au père, je ne connaissais pas du tout le monde du travail. Et là, je me suis retrouvée finalement à prendre le poste d'une personne qui était en congé d'été, mais qui occupe ce poste, bien évidemment, toute l'année. Le boulot consistait à vérifier le travail des femmes de chambre, et donc j'étais responsable d'une équipe de 6 personnes qui, moi, à 20 ans, avaient entre 20 et 25 ans de moins que les personnes que je devais diriger. Donc c'était pas facile en termes de management, parce que je n'y connaissais rien du tout, management d'équipe. C'est un travail extrêmement difficile, femme de chambre, gouvernante aussi, mais j'insiste, j'ai découvert une réalité du travail assez dure, même parfois très violente dans les relations de hiérarchie, notamment. L'hôtellerie, c'est vraiment pas un monde facile, enfin bon.
Est-ce que vous vous souvenez de l'entretien que vous passez à 20 ans, ou parce que vous étiez conseillé par votre papa, vous n'avez pas passé d'entretien ?
Non, je n'ai pas passé d'entretien.
Donc vous débarquez sans conscience de la responsabilité qui allait être la vôtre, ni sans connaissance du...
Alors ça s'est pas quand même passé, j'ai quand même rencontré cet hôtel étant un hôtel de plus de 300-350 chambres, il sous-traitait à une société de nettoyage. Donc j'ai rencontré... le patron de cette agence de nettoyage, mais c'était pas pour moi. Je me rendais pas compte. Pour moi, c'était acquis. J'avais le job de toute façon, puisque j'étais en concurrence avec personne d'autre. Et effectivement, j'y allais les mains dans les poches. Enfin, on était obligé d'être en robe. Donc, pas de poche, mais j'y allais vraiment très tranquillement et je ne savais pas. Je ne savais pas vraiment
et
en quoi consistait le travail.
Avec le recul, pourquoi est-ce que cette période, donc on l'a senti, vous êtes toute jeune, vous avez encadré, mais aussi à évaluer, surveiller le travail d'autres femmes qui travaillent sous votre responsabilité. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir été modifiée par cette période de travail d'été, d'être devenue une jeune fille autre, en tout cas dans ce milieu-là?
Tout à fait, oui, je pense que ça m'a sensibilisée et ça continue, je pense, à avoir ses effets, parce que je reste très très sensible aux conditions de travail. Je peux vous assurer qu'après, je ne regardais pas même une caissière de la même façon. J'avais davantage d'empathie, je me posais davantage de questions sur... la régularité de la tâche. Alors là, en l'occurrence, vous faites une chambre, elle est, vous la nettoyez, elle est bien évidemment louée, salie, il faut le... Donc c'est sans arrêt, c'est toujours, toujours, toujours le même job. Et quand la journée est terminée, vous êtes content, vous avez fini vos chambres, et ça recommence le lendemain. Et ça, c'est quelque chose... ça m'a apporté une conscience... plus fine, humble et plus généreuse, plus ouverte, voilà, plutôt que généreuse, plus ouverte sur les personnes que je pouvais soit rencontrer, soit même croiser dans la rue et que j'imaginais travailler avec des boulots à l'année. Parce que moi, c'était pas à l'année, c'était juste un mois. Et c'était une chance énorme que ça soit juste un mois.
Ariane, vous êtes au téléphone avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous avez accepté de raconter alors une expérience de job d'été, mais c'est un petit peu plus récent. De quoi s'agit-il ?
J'ai déjà travaillé il y a 2 ans dans une crêperie, donc un restaurant à Paris assez touristique. C'était la première fois, c'était sur 4 mois. Là, ça sera sur 2 mois. Voilà.
Et qu'est-ce que vous y avez découvert ? On entendait à l'instant Chloé dire qu'elle fait un apprentissage un petit peu brutal, à la fois des relations de hiérarchie, mais aussi de la répétition des tâches, mais aussi de la réalité de ce que c'est qu'encadrer le travail des autres, d'être responsable du travail des autres. Vous avez découvert quoi dans cette crêperie, dans ce restaurant ?
Oui, c'est vrai que c'était aussi ma première expérience, réelle expérience professionnelle dans une entreprise, disons. Je pense que ce qui m'a le plus marqué, oui, c'est déjà de découvrir qu'effectivement, comme on dit, il y a une certaine la pression, une certaine violence de devoir suivre un rythme dans ces restaurants touristiques, en fait, où on n'a pas le temps. Et quand on est là pour 2 mois ou 4 mois, on accepte de faire des choses et de suivre un rythme difficile, de faire beaucoup d'heures par semaine. Mais il y a des gens qui restent dans ces restaurants pendant des années. Mais je pense que moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que j'ai découvert dans ce milieu-là, c'est un peu les relations hommes-femmes qui m'ont surprise, que je connaissais pas vraiment dans ma vie
quotidienne
à moi. Et
comme quoi, par exemple,
le sexisme au travail. Bah, dans un restaurant, si vous voulez, en fait, on était surtout des serveuses et il y avait surtout des cuisiniers, et les cuisiniers étaient de là depuis plus longtemps, et donc en fait géraient un peu la boîte, et donc les serveuses qui étaient jeunes devaient suivre les directives, et tout de suite il y avait beaucoup de séduction, enfin une espèce de séduction imposée par les hommes qui restaient à peu près distantes. C'était pas une chose trop terrible, mais de découvrir ça, moi j'avais 19 ans quand je suis rentrée là-dedans, et voilà, de découvrir qu'en effet, quand on est une femme dans le monde du travail, souvent on est aussi censé divertir les hommes, quoi. Il y a quelque chose de ce goût-là.
Et ça, vous avez la sensation d'en avoir fait pareil, un brutal apprentissage, ou en tout cas une brutale découverte?
Oui, parce que je m'y suis directement confrontée personnellement. J'en avais entendu parler, mais là, j'en ai fait l'expérience. Et c'est vrai que je pense que ça a beaucoup influencé ensuite, en fait. Mais voilà, depuis, je m'intéresse beaucoup plus aux questions féministes. Enfin, ça fait partie aussi de l'apprentissage de grandir. Mais oui, c'était une surprise, quoi.
C'est étonnant, Amadou Boy, parce que, enfin, étonnant ou pas du tout, hein, on entend à la fois Chloé avec plus de 20 ans. C'est ça, hein, oui, de recul. Et Ariane, avec un petit peu moins de recul, dire que le travail a été pour elles deux, finalement, la découverte du monde social, de la réalité sociale, du point de vue de la relation entre les sexes, du point de vue de la relation entre des classes, par exemple, hein, puisque vous disiez aussi, Chloé, que vous accédez à un job d'été sans passer d'entretien parce que votre père vous le permet et vous prenez la place, ou en tout cas vous remplacez quelqu'un. Vous prévenez les jeunes que ce sera aussi ça, un job d'été, ce sera aussi se prendre le monde en pleine figure?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, bien sûr, surtout dans le secteur de la restauration. Pas pour dire que c'est récurrent l'effet que...
Comment il s'appelle ? Ce que dit Ariane, c'est ça ?
Ariane, ouais. Évoquait que c'est récurrent. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence, mais c'est vrai qu'on attire leur attention aussi sur le fait que, après ça, l'idée, c'est d'expliquer à la jeune fille, effectivement, les postures à tenir, quoi, et que sur un job d'été, dans le secteur de la restauration, il arrive, surtout pendant la saison, la petite étudiante qui débarque dans le restaurant, ça peut susciter, effectivement, qui perçu peut-être chez ces cuisiniers hommes comme un jeu, alors que c'est perçu très différemment par la jeune étudiante qui ne partage pas cette forme d'humour, qui n'en est pas un. Bon,
oui,
voilà. Après ça, c'est une posture effectivement qu'il faut, et je pense que celle qu'elle a tenue est la bonne, bien évidemment.
Ce que disent Chloé et Ariane aussi, c'est qu'elles découvraient des conditions qu'elles embrassaient, elles, pour une période courte, parce qu'elles étaient en situation de job d'été, et qu'elles étaient obligées de se rendre compte que ces conditions de travail très dures et quel que soit le domaine, c'était des conditions qu'embrassaient des hommes et des femmes pour des années entières, des dizaines d'années. Donc c'est aussi une vision du travail comme ça en échantillon qui,
bien sûr,
qui est une forme de comme ça, réalité très potentiellement brutale en tout cas.
L'expérience en tant que gouvernante que vous avez eue, elle est intéressante. Aujourd'hui, il est presque impossible d'occuper un emploi de gouvernante dans un hôtel sans passer par un BTS, HR, HLD Restauration. On est vraiment aujourd'hui sur des fonctions managériales. La visibilité de l'hôtel en dépend. Donc sur un job d'été, aujourd'hui,
ce serait pas faisable.
C'est le plein emploi, on va dire. Ces emplois-là étaient un peu accessibles. Mais aujourd'hui, effectivement, occupé un poste de gouvernant, on est sur des postes quand même hyper prisés qui requièrent des fonctions managériales. Les personnes sortent d'école hôtelière. Alors, les réseaux, nous, on va expliquer aux jeunes qu'il faut activer les réseaux parce que c'est quand même une technique de recherche d'emploi. C'est quelque chose qu'il faut
activer.
Amis,
relations, famille.
Le premier réseau étant effectivement la famille. Donc, c'est une excellente chose, effectivement. Que maintenant, ce que je vous reprocherais dans cette expérience-là, en tout cas, ce qu'on essaie d'apporter aux jeunes, c'est de faire le point sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux apporter. Ça permet déjà quand même de ne pas se retrouver sur des environnements professionnels qu'on subit. Maintenant, quand on présente les choses comme ça, ça a l'air un peu paradisiaque, mais on sait très bien que la rareté des ors font que on n'a pas tous le luxe de se positionner sur des emplois qui correspondent un peu à nos attentes personnelles, à nos aspirations personnelles. Mais ça n'empêche pas de prendre le temps de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai ? Quelles sont mes compétences en langue ? J'ai voyagé en Inde, j'ai joué au football, je suis capitaine de mon équipe, peut-être qu'effectivement on peut confier des responsabilités. Quels sont les emplois, jobs d'été qui tourneraient autour de ces aptitudes-là et qu'une fois que j'occupe ces emplois-là, je me sentirai dans un environnement épanoui. Voilà, parce que ce travail-là, il n'a pas été fait en amont.
D'ailleurs l'occasion de faire a posteriori un point sur ce que j'ai vécu, ce que je suis, ce que je ne veux plus ou ce que je veux. C'est ce que vous disiez, Chloé. Ouais. Simplement pour continuer un tout petit peu la conversation avec Ariane au téléphone avant de la laisser partir, vous disiez j'ai pris conscience de ce que j'avais vécu dans ce restaurant, notamment dans les relations avec les cuisiniers hommes, et cela a affecté à la fois ma vision du travail et ma vision des relations hommes-femmes. Vous avez par exemple changé de domaine dans les jobs d'été qui ont suivi ?
Non, vous voyez, en fait je retourne cette année dans le même endroit.
Vous avez dû trouver des bonnes choses.
Oui, non, c'était pas, je veux dire, c'est des choses qui m'ont marqué. Après, c'était quelque chose qui m'a aussi appris énormément de choses. C'était pas une expérience uniquement négative du tout. C'est vrai que ça a été une surprise. Après, je pense que aussi, j'ai appris à ce moment-là, moi, à me protéger de ça. Et depuis, j'ai changé. Et voilà. Et donc, j'ai pas peur de retourner vers ça. Mais, non, c'est quand même une facilité, c'est-à-dire que la restauration pour un job d'été, ça offre beaucoup d'heures, ça aide. Donc malgré ça, je retourne à la restauration en fait tous les ans.
Et vous vous en sortez financièrement ? Ça va, ça éponge les revenus auxquels vous vous attendez ou les revenus dont vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire ?
Pas complètement, non. J'ai le soutien en fait de mes parents.
Donc vous faites un mélange entre les revenus de ce job d'été et ce que vous donnent vos parents.
Exactement, oui, c'est ça.
Chloé, vous vouliez peut-être revenir sur cette expérience à l'hôtel. Est-ce que vous, ça a modifié la suite des jobs d'été ? Vous aviez 20 ans à l'époque. Les étés suivants, vous avez fait quoi ?
Alors j'avais 11 mois pour m'en remettre. Donc du coup, je resignais. Je l'ai fait 3 années.
Ah, tout de même.
Ouais.
Et ça a changé d'une année sur l'autre, justement. Est-ce que l'expérience aidant, vous avez vécu peut-être les choses différemment? Amadou Boy disait de ne pas être dans un environnement professionnel que l'on subit. C'est un enjeu qui ensuite nous suit dans notre vie d'adulte de manière extrêmement importante. Vous, ça a bougé?
Oui, bien sûr. C'est la première expérience qui a été la plus marquante. Après, j'y allais avec un peu plus de détachement. Tout en faisant mon job, parce qu'il faut savoir que j'étais moi-même contrôlée. Donc la pression était que je contrôlais des femmes de chambre et j'étais contrôlée moi-même après.
En tant que gouvernante.
En tant que gouvernante par d'autres gouvernantes qui dépendaient de l'hôtel. Enfin donc, voilà. Et
Alors, quelles sont les bonnes choses que vous y avez apprises? Est-ce qu'en dehors de la nécessité de renouveler, j'imagine, ce job d'été et la facilité qui vous était offerte, est-ce que vous y avez trouvé des bonnes choses?
Alors, à 20 ans, j'étais à la fac, j'étais donc dans un environnement que j'avais choisi, en plus fac de théâtre, un peu bohème, je connaissais pas un milieu, enfin mon milieu d'origine était plutôt bourgeois, donc oui, ça a été super chouette de rencontrer des gens d'un autre univers, pour certains, notamment une femme qui est devenue une copine, que j'ai revue par la suite. Elle occupait ce poste à l'année. Hein. Aussi, gagner la confiance de ces femmes de chambre, qui, elles, ça aussi, c'est assez sidérant, enfin, ça m'a sidérée. Étant donné leur origine, elles ne pourraient jamais accéder au poste que moi j'avais en claquant les doigts. Et donc, ça rendait évidemment les conditions, les relations. Difficile.
Ça aussi, mais, c'est bien d'en prendre conscience à cette époque-là.
Mais avec de la considération, voilà, j'ai appris des choses comme ça. J'ai aussi noué de bons contacts et de bonnes relations avec des personnes que j'aurais jamais rencontrées à d'autres moments.
Alors, ça va?
Ça va pas trop, hein?
Ça va, c'est 29, j'ai pas envie en soi,
hein? Voilà, t'as, je vais t'expliquer.
Ça, hein.
C'est pas, mais... Et voilà, tu mets le seau dessous, à savoir le sécateur, tu coupes la grappe, tu lèves la feuille, tu coupes la grappe, et tu laisses tomber dedans.
C'est pas bête.
Ouais, voilà. Tu vois, c'est pas compliqué.
Puis quand ton seau est plein, hein, tu m'appelles.
D'accord.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too, a song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer. Summer wine.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues. Par Marie Richeux.
Et le sensuel et estival vin d'été de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood. Juste avant, on entendait un son radio de 1972 tiré de l'émission Les Provinciales où on apprenait à faire les vendanges. Alors, vous avez évoqué très très brièvement tout à l'heure Amadou Boy parlant de ses jobs d'été, qui avait aussi tout ce pan des jobs d'été qui n'était plus ni à l'hôtel, ni à la crêperie, ni au restaurant, mais à l'air libre. Ça encore la cote.
C'est ça, au grand air. Effectivement, on retrouve, il y a un paquet d'emplois qui est assez récurrent, c'est vrai, l'hôtellerie-restauration, les métiers d'accueil. Mais c'est vrai que un organisme comme l'ANEFA, effectivement, nous sollicite souvent. Et du coup, certains paysans dans certaines régions de France n'ont pas encore atteint leur contingent de cueillir de fruits, d'agrumes à cette période de l'année. Bon, après, la contrainte, c'est que il faut être sur place. Certains paysans proposent l'hébergement, parce que quand un jeune Parisien ou Francilien part à Bordeaux pour faire les vendanges ou
Lillois,
pas loin, ou voilà, exactement. bon. Après, nous, on en a rencontré au CIDJ qui s'organise quand même un groupe, hein, et qui partent en voiture, qui vont faire deux semaines.
Des jeunes gens, vous voulez dire?
Exactement, qui vont cibler deux, trois sites de cueillette et de vendange. Ça leur fait un peu aussi comme une colonie de vacances, tout en travaillant, en restant entre copains, entre copines, tout en découvrant le sud de la France ou d'autres régions de la France. Donc, voilà, moi, j'invite aussi, effectivement, les jeunes à élargir le champ des possibles, qu'on n'est pas seulement sur le boulot, où on est à l'accueil avec la super présentation ou dans l'hôtellerie-restauration, mais effectivement, sur l'accueil des fruits et les vendanges, il y a des besoins importants.
Et ce qu'on disait tout à l'heure, à la fois avec Chloé et à la fois avec Ariane, de la découverte si forte et parfois brutale, mais pas forcément au sens négatif du terme, du monde, c'est aussi la possibilité, je ne sais pas, pour toi Marouane, qui passe ta vie, en tout cas entre Paris et Saint-Denis, pour la maison et pour l'école, d'un seul coup, j'imagine que tu découvrirais deux, trois choses en allant cueillir des raisins ou d'autres fruits et légumes, non ?
Pas tant que ça.
Regarde, je suis avec mes idées préconçues.
Non, parce que j'ai de la famille à la campagne et très souvent, en fait, on a un petit jardin avec deux énormes cerisiers. Et en fait, très souvent, dans les périodes d'été, printemps, on va aller cueillir les cerises et même on a un petit potager qui nous permet aussi d'avoir notre propre récolte. Du coup, c'est pas quelque chose que je vais vraiment explorer, que je connais un peu déjà, mais je pense que ça me ferait du bien quand même d'un peu de... Après,
oui, parce que je crois qu'il y a une petite différence entre cueillir tranquillement les cerises
parce que bon, il y a entre deux grands cerisiers et plusieurs dizaines d'hectares, il doit y avoir quand même une différence.
La contrainte. L'obligation de te lever le matin.
Exactement. Nous, c'était un peu quand on voulait. C'est-à-dire que c'était périodiquement, on allait quand on avait envie de quelque chose de sucré, on avait juste à étendre le bras dans le jardin. Je pense que ça peut être quand même une expérience assez sympathique, puisque comme il l'a dit, on peut découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages.
Tout à l'heure tu disais Marouane, dans deux semaines, le temps de à la fois clôturer mon année scolaire et puis renouer des liens d'amitié, je vais me mettre à chercher un job d'été. Pour toi, c'est une obligation qui tient à quoi? Qui est une obligation financière? Qui est une envie d'indépendance? Ça veut dire quoi pour toi, trouver un travail d'été?
Un peu des deux en fait. Ça va être un peu le moyen de me mettre un peu de sous de côté, histoire d'être un peu plus indépendant plus tard en fait. C'est-à-dire que j'ai...
C'est un plus tard à long terme pour toi, c'est quoi l'horizon?
L'horizon au niveau de la période d'âge?
Oui, c'est ça. Tu te dis, je mets de l'argent de côté pour dans 6 mois, dans un an,
dans une ou deux années, peut-être après ma terminale, peut-être enfin pouvoir me mettre financièrement indépendant pour ne plus dépendre de mes parents, de mes grands-parents, etc. Ça va me permettre peut-être d'avoir ce sentiment d'indépendance qui va me faire du bien à moi, puisque j'ai horreur d'être gouverné. et du coup, je pense que ça va être peut-être le moyen de me mettre un peu de sous de côté pour peut-être avoir ma première coloc, etc. Être indépendant, faire mes propres courses. Je pense que c'est vraiment une étape en fait à vivre.
C'est quelque chose dont tu as hâte, cette idée-là?
J'ai hâte. J'en ai vraiment hâte. C'est quelque chose que je suis quelqu'un de très impatient, et cette période de temps dans laquelle j'ai encore besoin de mes parents pour me nourrir, même pour me divertir un peu, c'est... Ça ne me convient pas.
Quel discours y tiennent justement à la fois la famille et l'établissement scolaire quand vient l'été? Est-ce qu'ils sont encourageants? Est-ce qu'ils sont, je sais pas, est-ce qu'ils vous mettent ou te mettent au pied du mur en disant bon ben non, ce serait bien que tu trouves un job d'été pour justement réunir quelques sous? Comment ça se passe?
Pas du tout. Non, c'est l'été, c'est avec dans le cadre familial, c'est un peu fais ce qui te plaît en fait. C'est très, j'ai beaucoup de liberté. Au niveau scolaire, c'est un peu plus différent. On nous presse un peu à bosser un peu plus, pas forcément à trouver un job d'été, etc., mais peut-être à élargir nos cultures en fait. Ça va être l'été, ça va être plus être quelque chose, découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux livres, de nouveaux artistes, peut-être un peu plus engagés dans certaines choses plutôt que de la musique. Un peu pour le divertissement, faites pour ça sans passer de message, ça va plus être quelque chose comme ça.
Donc le mot d'ordre, c'est pendant l'été, ouvrez-vous.
C'est ça.
Et revenez-nous, encore plus ouverts.
Exactement.
Yalla dafa sak kher kher di balbalo Yalla sak weñ mu toj kherwa Yalla sak weñ muy balbalo di balbalo Yalla sak sawara mu seyal weñ Yalla sak weñ Muy balbalo, iti balbalo. Yalla sak sawara, imu seyel ko. Yalla sak sawara, muy balbalo. Yalla sak ndo, mu fey ko. Nok di balbalo. Di tau di balbalo Yalla sak ngalaw mudal di sewet Ngalaw di balbalo Ngalaw di balbalo Yalla sak wahambane
Mamadou Boy, c'est vous qui avez souhaité entendre ce duo entre Cherlo et Ibrahim Malouf. Ce titre s'appelle Balbalou. Pourquoi vous souhaitiez entendre ça?
Oh, parce que j'aime bien. C'est quelqu'un que j'écoute depuis une quinzaine d'années.
Lequel, Cherlo ou Ibrahim Malouf?
Ah, les deux, mais les plutôt deux. Cherlo. Cherlo qui est en style un peu mix entre du folklore africain, un peu d'Asi, avec il reste ouvert à des univers divers et variés.
Et justement, ça répond presque à l'injonction scolaire faite à Marwan et ses camarades d'être de plus en plus ouverts. Vous dites, de temps en temps, il y a des jeunes gens qui viennent au CIDJ pour un entretien, pour nous aider ou s'aider même à trouver un job d'été. Et puis, en fait, ils se retrouvent orientés vers un séjour à l'étranger ou un job d'été couplé avec un départ à l'étranger. Vous les incitez beaucoup à la mobilité internationale ?
Oui, alors, il y a deux choses. Enfin, c'est qu'ils vont dans le cadre de la mobilité, dans le cadre de leurs études, c'est une chose, ça demande quand même une certaine préparation, quand c'est un master en BTS, aller hôtellerie restauration pour prendre votre exemple d'immersion de tout à l'heure, c'est toujours intéressant quand même d'aller travailler à l'étranger, dans une grande maison hôtelière, à Londres, pour avoir un peu cette dimension internationale-là qui est nécessaire dans ce type d'entreprise-là.
C'est quelque chose à quoi tu as pensé, toi Marwan, de partir à l'étranger cet été pour ou bien travailler ou bien, je sais pas, par exemple, éprouver des langues étrangères.
Travailler et mettre à l'épreuve mon anglais aussi. J'ai énormément d'amis à l'étranger, etc. Et très souvent, ils partagent avec moi des moments de job d'été qu'ils ont eu.
Par exemple.
C'est un ami norvégien. On parle tous les deux plus ou moins couramment l'anglais, et il m'avait dit que si il devait faire un job d'été, c'était sortir les poubelles, en fait. En Norvège, c'est des métiers comme ça qui sont un peu dégradants, on va dire.
Sortir les poubelles n'est pas dégradant.
Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de très classe, c'est pas très glamour. c'est des métiers qui sont absolument pas prisés là-bas, et du coup, il y a énormément de demandes. Et en fait, les revenus sont assez élevés. Donc pour sortir les poubelles pendant un mois, c'était quelque chose comme dans les alentours de 2000 euros, qui est quelque chose pour en France, ce serait le SMIC ou même pas. Je me suis fait, c'est énorme. Et du coup, j'ai énormément pensé à partir en Norvège.
Donc tu songes à aller en Norvège cet été, au frais?
J'y songe. Ça va pas être possible à cause de certaines restrictions familiales et même d'hébergement, en fait. Mais ce serait quelque chose que j'adorerais faire, partir à l'étranger pour bosser.
Très rapidement, pour conclure, Amadou Boy, Marwan a 16 ans. Mm-hmm. Quelle est la possibilité légale pour lui de travailler?
Alors, à l'étranger, faut oublier. En France, disons-le clairement, les employeurs sont très réticents à recruter des mineurs, sauf dans l'animation à partir de 17 ans, parce que le BAFA, on l'a à partir de 17 ans, on peut travailler dans le secteur de l'animation. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il faut une autorisation parentale, il faut pas qu'ils touchent de la boisson alcoolisée, il faut pas qu'ils travaillent une certaine heure. Donc, comme les employeurs, quand même, ont peur de tout ce qui est contrainte administrative, et qu'il y a beaucoup de majeurs qui sont présents sur le marché, ils se disent, pourquoi se prendre la tête avec des mineurs, quoi. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, pour les mineurs, il y a certains emplois où ils peuvent. Je reviens sur mon travail au grand air, les vendanges et les quais, ça, ils ont besoin. Voilà. Et puis tout ce qui est street marketing, la distribution de flyers dans les supermarchés, de l'animation commerciale, la garde d'enfants, sortir les chiens, pour les propriétaires qui sont partis en vacances. Donc, il y a quelques niches d'emploi pour les mineurs.
T'as presque eu un entretien en direct, en fait, Marwan.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Il est 14h52 sur France Culture. Le samedi 4 juin dernier, dans le cadre du week-end Imagine, sur la piazza du Centre Pompidou à Paris, on avait fabriqué une marelle radio géante avec les auditeurs, les visiteurs, les enfants, les ados, les adultes qui passaient et qui enregistraient le récit de moments marquants. Et au sol, petit à petit, se dessinaient des cases thématiques décidées par les raconteurs d'histoire, et ces cases pouvaient être réutilisées ensuite par les raconteurs suivants. La femme qu'on va entendre aujourd'hui avait décidé de réutiliser la case vue d'en haut, précédemment tracée. Une fois au centre, elle y raconte une histoire de grue.
Voilà, j'ai rajouté une apostrophe et un N à vue de haut, parce que j'ai plutôt envie de raconter quelque chose qui parle de la vue d'en haut. Au départ, j'avais vraiment le vertige quand j'étais enfant, mais un vertige qui me sidérait. Et au fur et à mesure de ma vie et de mon métier, je me suis retrouvée à grimper dans les grues progressivement, de plus en plus haut. et à faire que le vertige ne vienne plus me figer, m'assaillir, m'empêcher d'agir. Et j'aime beaucoup ça. Donc j'aime beaucoup me retrouver dans le fût d'une grue, sentir qu'elle bouge parce que y a de l'action en fait. Elle prend des charges et donc du coup elle est soumise à des mouvements. Et j'aime bien le mouvement de grimper aussi à l'échelle, comme si j'étais un singe dans un cocotier. Et j'aime rester à observer, assez haut parfois, parce que les plus hautes grues dans lesquelles je monte sont à 170 mètres, donc ça commence à faire haut. Et j'aime beaucoup ça, m'arrêter et me laisser bercer, et regarder le monde tout en bas qui s'agite. Je suis seule dans la grue, mais en même temps, je me sens très reliée au monde. Quand on redescend, c'est une réincarnation, en quelque sorte, comme si on reprenait corps. Et on reprenait corps dans la terre. On reprend ses ancrages, alors que quelque part, le fait de grimper comme ça et d'être très aérienne... ça me coupe de la base en quelque sorte. Donc c'est toujours un grand soulagement de se retrouver les pieds sur terre.
Être mariée par Fantôme, choisi par Somanina, Fantôme dont le disque Nabi sortira le 7 octobre prochain. Et évidemment, en entendant cette chanson, on peut pas évoquer, ne pas évoquer la sublime version de Halt, Je voudrais être mariée, qu'Héloïse Decaze et Florian Cachera interprètent absolument, habité en concert, et en concert ils le seront le 10 août prochain au festival Mince Alors. Amadou Boy, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci de nous avoir invités.
Et Chloé et Marwan, merci à vous aussi avoir rejoints. Et on fait un coucou à Ariane qui était tout à l'heure au téléphone avec nous. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé, mais ça se réécoute sur franceculture.fr. On peut aussi s'envoyer des messages. Tout l'été, on ne les recevra pas, mais jusqu'à vendredi, on les reçoit. Via Twitter, Facebook et franceculture.fr, vous pouvez vous abonner au podcast. L'émission est imaginée avec Romain Debec de Lièvre, Alice Ramon, Inès Duperron et elle est réalisée par Somanina. Aujourd'hui aux manettes, c'était Vincent Ronet et au droit d'auteur Jean-François Souvigny. On se retrouve demain pour un troisième jour d'été et dans un instant, Mathieu Garrigou-Lagrange et la littérature.